Seigneur Dieu, grand Dieu de l'univers, tellement grand et tellement proche de nous en Jésus-Christ, tellement proche de nous par son esprit qui nous habite. Incroyable. Parle-nous, Seigneur. Amen. On n'a pas de support visuel pour l'instant, mais c'est pas grave, vous avez des bonnes oreilles. Donc, utilisez plus vos oreilles que vos yeux en ce moment. Pourquoi une réflexion sur le travail? C'est ma prochaine plénière. Vous allez passer 80 000 heures au travail dans votre vie. Et si vous n'avez pas une bonne théologie du travail, vous allez vous ennuyer en pas pour rire. Êtes-vous d'accord avec moi? J'ai fait un bac à l'Université de Montréal en nutrition. J'ai décidé de faire une maîtrise tout de suite après, en nutrition aussi. Puis je m'enlignais pour le doc, le PhD. J'ai commencé 4 mois en PhD, puis finalement j'ai tout arrêté. Ça ne me tentait pas de continuer un autre 4 ans, d'accumuler d'autres dettes d'études. On avait un enfant en chemin. Puis je m'imaginais mal aussi, en tant que chercheur à l'université, travailler avec des rats de laboratoire. Je me voyais mal. Peut-être que c'est ce que tu fais, puis t'es heureuse là-dedans, là. Mais j'avais de la misère. Donc, j'ai décidé de tout arrêter. Je faisais ce qu'on appelle un passage direct, la maîtrise jusqu'au doctorat. Et puis, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai écrit mon mémoire de maîtrise, puis je me suis cherché un job. Puis là, il y avait dans mon monde, en nutrition, en diététique, il n'y avait rien qui me tentait. Je ne voulais pas travailler dans un hôpital où tu rencontres une personne qui vient de se faire enlever sa vésicule biliaire, puis là, il faut que tu la transformes en 15 minutes pour le restant de sa vie parce qu'il faut qu'elle change sa diète, là, elle, là. Puis là, tu as 15 minutes pour transformer sa vie. Je me dis, non, ça ne me tente pas de faire ça. Les chances de succès sont nulles. Ou bien ça ne me tentait pas de m'ouvrir une clinique privée, puis de recevoir des gens, puis d'essayer de les motiver, peu importe, à changer leur habitude alimentaire. Là, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'il me reste? Et je suis devenu représentant. Parce que dans notre bac, on avait eu des représentants de différentes compagnies qui étaient venus nous exposer un peu leur carrière. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai été représentant pour une compagnie qui avait une division nutritionnelle pendant 2 ans. Je vendais des suppléments. Si vous allez à l'hôpital, on vous pousse un tube dans le nez jusque dans l'estomac, là, puis on vous nourrit artificiellement, mais c'est ça que je vendais. Ça a été, moi, le début de ma carrière. Après ça, j'ai fait un switch. Je suis devenu pocheur légal. J'étais représentant pharmaceutique. Je vendais de la drogue, mais légalement. C'est ça. J'ai passé 15 ans dans ce milieu-là. J'ai avancé. J'étais représentant. Je suis devenu représentant spécialiste. Je suis devenu formateur. Je suis devenu gérant d'équipe, d'une équipe de vente, etc. Puis je me souviens qu'il y a des promotions que j'ai refusées à cause de mes valeurs. Parce qu'on me demandait de voyager. Puis ça, le timing n'était pas bon avec la famille. Donc, je vous amène à réfléchir sur cette balance-là, cet équilibre-là entre famille et travail. C'est bien important. Et si ça vous amène à dire non à des promotions, bien, be it. C'est plus important d'être avec sa famille que de gagner 10 000 $ de plus sur sa paye. Ça, il faut être sûr de ça dans son cœur. Donc, en ce moment, je suis représentant en soins de plaies. Je me promène dans les hôpitaux, je me promène dans les CLSC et je regarde des plaies dégueulasses, comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer, et je vends des pansements spécialisés. Est-ce que je suis loin de la nutrition? C'est connexe. Mais est-ce que je travaille dans mon milieu d'études? Pas du tout. Est-ce que ça me dérange? Pas du tout. Je vous dis ça parce que vous êtes aux études, vous travaillez fort. Puis si vous avez comme attente de travailler absolument dans le milieu dans lequel vous avez étudié, peut-être que ça ne se passera pas comme ça. C'est-tu grave? Je pense pas. Je pense qu'il faut être ouvert à ça, dans le monde dans lequel on vit. Puis Dieu vous, peut vous utiliser ailleurs. C'est correct. Donc, je voulais commencer avec ça. Bravo, Joël, tu t'en viens bon? Ça va être GBU en haut à droite. Ah non, on l'avait déjà. Voilà, travail. Une bonne main pour Joël. Est-ce que vous avez une bonne théologie du travail? Dans ma carrière aussi, j'ai passé 15 ans dans la pharmaceutique. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis plus dans le domaine médical où je vends des appareils médicaux. J'ai vendu des glucomètres pour les diabétiques. Là, je vends des pansements pour les gens qui ont des plaies. Donc, dans tout mon parcours, ce que j'ai appris aussi dans mes apprentissages, c'est qu'il faut toujours équilibrer travail-famille. Il faut garder ça clair en tant que chrétien. Il faut être capable aussi de dire non à des promotions. Il faut être capable de prendre des démotions, parce qu'il y a des fois où j'ai, par conviction, j'ai passé d'un poste plus haut à un poste plus bas à cause de mes valeurs. C'est correct. Il y a eu d'autres moments aussi où j'ai trop cru ce que les autres disaient de moi. Puis ça, c'est important. J'ai failli faire une dépression en 2005. Parce que tout au long de ma carrière, j'avais toujours eu, tu sais, quand on est dans le domaine privé, on reçoit des évaluations par notre boss une fois, deux fois par année. J'avais toujours eu comme résultat, François, tu rencontres les attentes ou tu les dépasses. Puis soudainement, en 2005, j'ai une patronne qui me dit, « François, sur 10 compétences, tu en échoues 6. » Puis savez-vous mon problème? C'est que je l'ai cru. Mon identité dépendait, elle, plutôt que de Dieu. Ça, il ne faut jamais perdre ça de vue quand on est au travail. Ce n'est pas ce que ton patron dit de toi qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Sauf à... C'est le trombone qui joue tout seul. Hourra, François! Ça, c'est bien important dans le monde du travail. Parce qu'on reçoit beaucoup de pression. On reçoit beaucoup de pression pour performer, pour rencontrer les attentes. Mais en tant qu'identité, là, ça vient d'où? Ça vient-tu de ce que ton boss dit de toi ou ça vient de ce que Jésus-Christ déclare que tu es? Enfant, précieux, chéri, racheté par mon sang. Wow! Un autre point important aussi, c'est que si tu ne réussis pas à t'accomplir dans ton travail avec tous les talents que tu as, c'est pas si pire. Tu peux le faire dans ton église aussi. Hein? Tu n'es pas obligé de te réaliser pleinement à ton travail. Tu peux compenser aussi par ton service à l'Église. Moi, j'aime ça enseigner. Je le fais en partie avec mes infirmières. Je lui donne des formations, ça fait partie de mon travail, mais je le fais aussi à mon Église. Donc, cette aspiration-là d'enseigner n'est pas juste au travail, et dans mon Église aussi. Donc, en ce week-end, oui. Quelques mises au point que je voulais faire. Travail et spiritualité. Le travail pour toi, là, est-ce que c'est la conséquence de la chute? Hein? Est-ce qu'on est pris à travailler parce qu'on a péché dans le jardin? À la soirée de notre front maintenant, c'est ça qui s'est écrit. Mais est-ce qu'on travaillait avant la chute? Ouais! Amen. Amen. Donc, c'est important dans notre théologie de la création, il faut se rendre compte que le travail faisait partie du plan de Dieu avant la chute, avant le péché. Donc, le travail n'est pas mal en soi. Il nous a mis dans le jardin, il a dit « Occupe-toi-en, je te fais confiance, nomme les animaux. » On travaillait avant la chute. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Voici... pasteur ou plombier? Lequel est le plus spirituel? On a tendance à considérer un plus spirituel que l'autre. Comme si mon travail... Je vais y revenir à la fin, si tu permets.
Bien, d'abord, non, c'est juste un petit commentaire.
Vas-y, OK.
C'est juste dire, on pourrait quasiment dire pasteur ou jardinier.
Oui, oui. C'est bon. Et moi, j'ai vécu ça dans ma vie, parce que je pensais à un moment donné que j'avais fait l'appel pour le pastorat. Et je considérais mon travail séculier comme quelque chose de deuxième classe, de deuxième ordre, de moins important, de moins spirituel. C'est-tu vrai, ça, ou c'est des idées que je me fais? C'est des idées que je me fais. Je peux être un plombier et glorifier Dieu. Je peux être un représentant pharmaceutique et glorifier Dieu, un professeur et glorifier Dieu, une adjointe administrative dans un centre de personnes âgées et glorifier Dieu. C'est important. Le travail que vous faites est super important aux yeux de Dieu. Super important. Il ne faut pas oublier ça. Ça va mal tourner les pages avec un micro dans la main. Non. Parfois, je trouve que les églises nous préparent mal pour le milieu du travail. Je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire d'un chrétien qui est comptable. Puis lui, il veut inclure un témoignage chrétien là où il est. Puis quand tu es comptable, tu te bats avec des conflits éthiques, hein? Tu te bats avec des gens qui veulent tourner les coins ronds, qui veulent investir dans des paradis fiscaux aux Bahamas, qui ne veulent pas payer leurs impôts. Tu es constamment confronté avec ce genre de tension-là. Puis dans son église, il trouve qu'il est mal équipé. Il y a peu d'enseignement là-dessus. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un enseignement sur le travail dans votre église? Ça fait longtemps, hein? Vous en souvenez même pas. Mais c'est super important pourtant. On a souvent l'approche par compartiment. Quand je suis dimanche, ça c'est sacré. Puis le reste du temps, je tombe dans le monde séculier. Pourtant, l'Esprit Saint habite en moi et là où je vais, partout, c'est saint. Hein? C'est ça que la Bible me dit. Le sanctuaire, ce n'est plus le temple, le sanctuaire m'accompagne là où je vais parce que le Saint-Esprit habite en moi. Oh! Ça change la façon de réfléchir. Ce gars-là meurt à 49 ans, ce comptable. Puis à ses funérailles, le monde d'affaires assiste en grand nombre et on lui fait des éloges parce qu'on dit de lui qu'il faisait des affaires d'une façon différente. Il était respecté, on lui faisait confiance, on pouvait s'appuyer sur lui. Il était la définition d'un homme d'affaires honnête. Mais il a dû réaliser tout ça sans avoir le sens qu'il était envoyé par son Église. Il a dû faire ça de lui-même. Parce que ce n'est pas une pratique courante de faire venir les comptables en avant de l'Église et de les dédier un dimanche matin. Mais c'est une erreur. Hein? On le fait pour les pasteurs, on le fait pour les enseignants de l'école du dimanche, on le fait pour les anciens, on le fait pour les diacres, mais on ne le fait pas pour les gens qui s'en vont au travail dans la plus grande communauté qui ne peut pas exister, c'est tous vos collègues de travail réunis. Ça, c'est la plus grosse communauté dans laquelle on peut avoir un impact. Et on ne le fait pas. Puis moi, je regarde ça puis je me dis, il manque quelque chose dans notre théologie. Pourquoi est-ce qu'on le fait pour les pasteurs puis pas pour les plombiers? Parce qu'on pense qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, plus spirituel. Tourne la page. Chaque communauté chrétienne doit se voir comme une communauté avec la responsabilité d'envoyer des gens dans le monde. Hein? Jean 21. Comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. peu importe ta job, tu es un envoyé. C'est la définition du chrétien, un envoyé. Dans ton contexte de travail, dans ton groupe, dans ton université, dans ton cégep. Donc, de les aider à reconnaître leur appel, à reconnaître leur don, les aider d'incarner la bonne nouvelle là où ils sont. J'aimerais ça un jour dans nos églises faire venir des familles, faire venir des professeurs, faire venir des gens en affaires. OK, ce matin, tous les gens en affaires, levez-vous, venez en avant. Un autre dimanche, OK, tous les plombiers, venez en avant. Et on les commissionne, on les envoie. Moi, j'aimerais savoir ça. Tous ceux qui ont un DEP, okay, toute l'école bleue. Je me permets une autre interrogation. C'est qui le pasteur dans votre église? C'est le gars qui est payé? Habituellement, c'est ça notre définition du pasteur. C'est le gars qui est payé. C'est-tu biblique, ça? Je crois pas. Si tu es responsable d'église, si tu fais partie des anciens, que tu sois payé ou pas, ça change-tu quelque chose? Parce que l'apôtre Paul était un pasteur. Il faisait des tentes, lui. Il avait sa propre job pour se soutenir. Je pense qu'on a une vision aussi du pasteur qui n'est pas biblique. Séculier, on fait une différence entre le séculier d'un bord puis le sacré de l'autre bord. Le clergé d'un bord, les laïcs de l'autre bord. Non, on est tous égaux. Tous égaux. Avec des appels différents peut-être, mais tous égaux. Notre compréhension de l'interaction entre l'Église et la culture va influencer notre compréhension de notre travail. Comment? C'est quoi votre réflexion par rapport à la culture? La culture, c'est-tu quelque chose qu'il faut fuir? C'est-tu quelque chose qui est mal? C'est-tu quelque chose qu'il faut pas se laisser influencer? Ou c'est quelque chose qu'on peut transformer avec l'Église, avec le royaume de Dieu? C'est quoi votre vision par rapport à la culture? C'est bien important de répondre à cette question-là. Parce que si la culture est mal, bien on va faire des ghettos, on va faire des monastères, puis on va pas se laisser influencer par la culture. C'est comme ça que je comprends l'appel de Dieu dans ma vie, de ne pas me laisser influencer par le monde. Je vais m'organiser comme ça. Mais si au contraire, je comprends que je suis un envoyé, je ne prie pas de les retirer du monde, mais de les protéger du mal. Ça, c'est pas pareil. Donc, on est envoyé dans la culture pour la transformer. Oui, il y a quelque chose de mal dans la culture à transformer, mais il y a du bon stock dans la culture aussi. Tout n'est pas mal. Donc, c'est bien important de comprendre. J'ai vraiment de la misère à tourner mes pages. Voici ce que j'ai parlé tantôt. Les trois grands mandats du chrétien. Un mandat créationnel, Genèse chapitre 2. Dieu nous établit dans le jardin, Dieu nous fait confiance, Dieu nous donne des responsabilités. Tu vas nommer les animaux, tu vas prendre soin du jardin. Tu vas être au service de la création. Donc, à quelque part, moi, j'ai un travail où je dois être capable de faire la connexion avec ce mandat-là. Est-ce que je suis au service de la création dans mon travail? Je suis au service de deux choses en ce moment. Dans mon travail. Je suis au service des patients qui ont des plaies dégueulasses et qui sont mal soignés et puis qui restent comme ça. Il faut qu'ils aillent au CLSC à tous les jours pour se faire changer un bout de gaz, ça de long, dans une plaie, alors qu'il y a d'autres choses de mieux qui pourraient les aider. Ça, c'est ma job, comme je la comprends. Et je suis au service aussi d'une compagnie qui veut faire des profits. Faut pas faire l'autruche, là. Je travaille avec une compagnie qui fait des milliards de profits par année. Mais à quelque part, dans votre job, il faut que vous soyez capable de faire la connexion entre le mandat que Dieu vous a donné dans le jardin est votre job en ce moment, une job au service de quelqu'un d'autre. Ma femme travaille d'une adjointe administrative dans un centre pour personnes âgées. Elle est là pour les aider, les protéger. Ce sont des gens vulnérables, ils peuvent se faire facilement enfirouaper. Puis il y en a des histoires d'horreur, comme raconte des fois au souper. Donc, peu importe la job que vous avez, que ce soit quelque chose qui répond à ce mandat-là. L'autre, le mandat de l'amour, le grand commandement, et l'autre, d'être participant dans l'expansion du royaume des cieux sur terre. Donc, ça, c'est les trois mandats du chrétien. Faut que mon travail recoupe ces choses-là. On peut le passer plus vite. Ça, c'est le verset en Genèse. Hein? On est appelé à cultiver, à garder. Ici, on est appelé à nommer les animaux. Le plus grand commandement en Matthieu 22, aime le Seigneur ton Dieu. Peut-être juste un commentaire là-dessus. De quelle façon vous comprenez ce verset-là? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y a deux façons de voir ça. Ça veut dire le dimanche matin, là, j'aime Dieu, là, et là, je veux le faire de tout mon cœur, de toute ma pensée, de tout. C'est ça que ça veut dire? Est-ce que ça nous demande une intensité du dimanche matin qui dure une heure et quart? Je ne crois pas, mais je pense que des fois, on le comprend de même. Je pense que l'autre façon de le comprendre, c'est peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu mets ta force, peu importe là où tu mets ton âme, peu importe là où tu mets ta pensée, aime Dieu. Donc, peu importe ce que tu fais. Donc, ça, c'est notre plus grand commandement et la grande commission en Matthieu 28. Comme je vous ai dit tantôt, le verbe principal est ici, c'est faire des disciples. En allant, en baptisant, en enseignant, ce sont tous des participes, des verbes de deuxième intention. Le travail, ça sert à quoi? Est-ce que le travail est un mal nécessaire? Faut que je mange, fait que j'ai besoin de sous, fait que faut que je travaille. Est-ce que c'est ça votre vision du travail? Un mal nécessaire. C'est ça, c'est plate, hein, s'il vous plaît. Hein? Oh oui.
Le travail, ça nous empêche de nous empirer comme personne. Si on a la tendance à l'oisiveté,
c'est fait. Parle pour toi. Faut pas oublier que quand David a péché avec Bathsheba, c'est parce qu'il était oisif sur son toit et il n'y avait rien à faire. Ou bien, est-ce que mon travail, c'est une place pour. C'est simplement une place pour témoigner? Est-ce que je suis un plombier déguisé, en fait? Je suis pas vraiment là pour faire de la plomberie. Je suis là juste pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Je suis en dessous du lévier, là, je suis en train de dévisser les tuyaux, là, puis là, madame, savez-vous que Jésus vous aime? Puis... Hein? Est-ce que c'est ça le travail? C'est juste, c'est un prétexte pour rencontrer des gens? Ou rentrer dans leur maison, ils m'invitent, tu sais? Non, mais tu me fais penser à quelque chose. On reçoit des appels téléphoniques, hein, puis c'est des banques qui veulent te vendre de l'assurance sur ton crédit, puis des ci, des ça. Là, le prochain qui appelle, là, j'ai dit, « Tu connais-tu Jésus? » Lui, il veut s'inviter dans ma vie. Moi aussi, je vais m'inviter dans la sienne. pense que ça va y couper le sifflet assez court. Donc, est-ce que c'est ça votre compréhension du travail? C'est juste un mal nécessaire ou bien c'est une place de ministère? Ça n'a aucune valeur intrinsèque en soi? Ou bien est-ce que mon travail peut être un ministère? Okay? Développons ça un petit peu. Votre emploi comme vocation. Comme je disais tantôt, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Jean 17. Je ne suis pas un imposteur, un chrétien déguisé en plombier. Parce que si c'était vrai, puis on a de plus en plus de gens qui travaillent à partir de la maison, à qui vont témoigner ces gens-là? Au facteur? Hein? C'est la seule opportunité qu'ils vont avoir. Les facteurs vont disparaître dans un an. D'avoir cette compréhension-là, ça n'a pas d'allure. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez. » C'est assez simpliste, ça, comme comportement. « Soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça inclut votre travail. Colossiens 3, 17 « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Un peu plus loin, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Oh! Vous avez un boss? Il y en a qui ont des boss qui ne sont pas faciles. « Faites tout pour le Seigneur et non pour des hommes. » Wow! Ça parle. C'est quoi les besoins à votre travail? C'est quoi les besoins à de vos collègues? Hein? Là où vous êtes, c'est quoi les besoins autour de vous? Quels sont les obstacles pour que tu puisses servir Dieu à ton travail? Si mon travail est mon ministère, c'est quoi les besoins? Où est-ce que je peux servir? Où est-ce que je peux démontrer l'amour de Dieu véritablement autour de moi, peu importe où je suis? Où est-ce que je peux être le Christ incarné, les mains et les pieds de Jésus autour de moi? Tu dois répondre à ces questions-là si tu veux considérer ton travail comme un ministère. Il y en a qui voient le travail comme une responsabilité, là, un mal nécessaire. Un peu comme quand j'étais adolescent puis mon père me demandait « François, va passer à la tondeuse. » Oh, putain, ben ouais. Hey, ben, j'ai d'autres choses à faire que de passer à la tondeuse, là, mais je vais le faire parce que tu me le demandes, tu sais. Il y en a qui vont travailler avec cette attitude-là. J'aurais d'autres choses à faire. J'aimerais bien mieux être sur le bord d'une plage en Floride, mais je vais y aller parce que je n'ai pas le choix. Voyez-vous? Le travail, c'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu l'a pensé. Mon travail est un ministère. Comme Dieu me place dans le jardin pour nommer les animaux et le cultiver. Donc, le travail fait partie du plan de Dieu. Il était là avant la chute. On a tout mentionner ça. Donc, tout travail honnête, bien fait, honore Dieu, peu importe lequel. Ça dépend beaucoup de mon attitude. Ce qui fait qu'il est sacré ou séculier, ça dépend beaucoup de mon attitude, en fait. Pourquoi je fais mon travail? Est-ce que je le fais pour honorer Dieu? Ça devient sacré. Et dans ce sens-là, c'est aussi spirituel que le pasteur qui prêche. Fait que lorsque je sers mon patient qui a une plaie, si je le fais pour honorer Dieu, c'est aussi valable aux yeux de Dieu que ce que je suis en train de faire un matin en enseignant la Bible. C'est pas plus hot ce que je fais en ce moment-là que de laver la vaisselle pour servir ma famille. On fait cette séparation-là qui n'existe pas dans la Bible. C'est important de comprendre ça. Le ministère, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux pasteurs et aux missionnaires. Le ministère, c'est pour tout le monde ici dans la salle. On est tous appelés à servir. Voici ce que Tozer a dit. J'ai parlé de Tozer hier. Ça, c'est une citation de Tozer. Ce n'est pas ce qu'un homme fait qui détermine si c'est sacré ou séculier, c'est pourquoi il le fait. La motivation fait toute la différence. Si un homme sanctifie Dieu dans son cœur, Excusez, il y a une faute. Il ne fait plus rien de séculier. Tout ce qu'il fait devient un sacrement. Et là où il est devient un sanctuaire. Wow! J'aime ça. Yes, Tozer. La motivation fait toute la différence. C'est sûr que le travail a été corrompu par la chute et le péché. Le travail devient adulé par les workaholics. Il devient dénigré par les paresseux ou abusé par les cupides. Marc, tu te reconnais, là? Mais il n'est pas moins le plan de Dieu. Oui. Le travail a été affecté par la chute. Okay? Donc, il devient dénigré par les paresseux, il devient abusé par les cupides, et là, il m'en manque un.
Adulé
par les workaholics, que je ne suis pas capable de traduire. Merci. Six bénéfices du travail. OK, ça sert à payer mes comptes. Mais si tout ce que je vois, ma vie va être plate. 80 000 heures. 80 000 heures, ça va être plate, si c'est ma seule conception du travail. Je rencontre mes besoins de m'accomplir. Ça peut m'aider. Certainement, je peux m'accomplir. J'ai des dons. Dieu m'a donné des dons, des capacités. Je peux m'accomplir dans mon travail. Ça va servir à ça aussi. Puis c'est sûr qu'il y a certains jobs qui sont immorales. Là. On ne parle pas de ces là. Si je suis pocheur de drogue, là, c'est pas une job, ça. Illégal, je parle. Le travail aussi peut servir à servir les autres. Vous pouvez devenir employeur, peut-être. Vous pouvez donner du travail à d'autres qui vont être capables de prendre soin de leur famille à cause de ça. Mon fils Michael vient de partir une entreprise là, comme arboriculteur. Il s'occupe des arbres, tout ça. Bien, il a employé 3-4 employés. Ça donne du travail, donc. Ça a ça comme bénéfice. Puis là, tu dis peut-être que, bon, moi, je suis d'une usine, là, puis je fais des repas congelés. Bon. Comment est-ce que ça peut glorifier Dieu, là, cette histoire-là? Là? Peut-être tu dis, il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Dieu ne peut pas avoir ça dans son plan, là, que je fasse des repas congelés, là, jour, tu sais, que je ferme le couvert sur des repas congelés toute ma journée, là. C'est peut-être pas la job la plus palpitante sur la terre, mais faut avoir un pas de reculons puis dire, OK, comment est-ce que ça sert, ça? Comment est-ce que je sers mon prochain à travers mes repas congelés? Avez-vous déjà eu une bande d'électricité chez vous puis un repas congelé vous a dépanné, solide? Hein? Ou vous avez une... Je sais pas, quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, puis elle ne peut pas se faire à manger, puis elle mange des repas congelés. Il y a un gars qui posait de la brique pour construire une cathédrale. Hein, vous l'avez déjà entendu, ça? Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, Raphaël.
C'est quelqu'un qui, si c'est la même chose, la même histoire que celle que j'ai entendue.
Je vais te le dire, c'était dans le champ.
C'est quelqu'un qui arrive, qui voit quelqu'un qui pose une brique. Là, il demande à cette personne-là, mais qu'est-ce que tu fais? Là, la personne dit, c'est pas évident, mais je pose des briques, je dis, OK, c'est bon. Il marche un peu plus loin. Il voit une autre personne, il pose encore des briques, mais il demande à cette personne-là, mais qu'est-ce que tu fais? Là, il dit, c'est pas évident, je fais un mur.
Amen. Très bien, Raph. C'est en plein ça. Tu l'as dit mieux que moi. Donc, est-ce que je fais des repas congelés ou j'aide des gens en situation de dépannage qui en ont besoin? Mon autre fils, c'est un vitrier. Il pose des vitres pour construire des hôtels. Bon, ça a l'air niaiseux, ça a l'air séculier au bout, t'es où la gloire de Dieu là-dedans, hein? Peut-être que ça va servir à un couple qui va aller passer un beau week-end amoureux dans cet hôtel-là. Hein? Faire un pas de reculons puis voir la big picture. Ça peut-tu servir aussi à un couple qui va aller faire l'adultère? Malheureusement, oui. Il est là le péché. Mais si tu penses qu'il y a un problème, que ça ne peut pas être, hein? Non. Faire un pas de reculons, voir le big picture dans ce qu'on fait. Tout à fait. J'y arrive. Un bon in. Partager ce que je gagne avec d'autres. Donc, un autre bénéfice du travail, ça m'amène à partager ce que je gagne avec d'autres. Voici ce que dit Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Hein? On est tous d'accord avec ça. On est tous contre le vol. Ça va. Le reste est important. Mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir assez d'argent pour lui-même et aller dans le sud une fois par année? C'est pas ça que ça dit? Hein? Ça dit pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. L'inverse du vol n'est pas le travail pour moi. L'inverse du vol est le travail pour partager avec d'autres qui n'en ont pas. Wow! Ça va plus loin. Le contraire du mal n'est pas le neutre. Le contraire du mal est le bien. Donc, l'inverse du vol n'est pas le travail pour me servir moi-même, mais le contraire du vol, c'est d'avoir assez pour donner aux autres. Et ça, quand je gagne des sous, et on va en reparler ce soir, ça peut servir à d'autres. Êtes-vous généreux avec votre argent autant que vous êtes généreux avec vos opinions? Si vous partagiez vos sous aussi facilement que vous partagez vos opinions, ça irait peut-être mieux sur la terre. Je vous fais cette invitation-là. Ça permet un témoignage aussi, hein? Faut le dire. Il y a des gens autour de nous, on peut les servir, on peut être le Jésus en main et en os, en chair et en os, en main et en pied pour eux. Je connais un vendeur d'assurance. Et puis des fois, là, ils rencontrent des gens, ils sont dans des situations de désespoir. Ils mettent tous ces dossiers de côté, puis ils écoutent les gens. Puis des fois, ils témoignent. Fait que le travail permet à ce vendeur d'assurance d'être un témoignage. Une façon d'aimer et de servir Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton cœur. Bien, c'est dans mon travail aussi que je peux le faire. L'appel de Dieu dans la Bible s'est fait sur des politiciens, sur des leaders militaires, hein, comme des gens comme Gédéon, Moïse. Ça s'est fait sur des artistes. Et où notre artiste, là? Elle n'est pas là, Camber, elle n'est pas là? OK. Donc, l'appel de Dieu, ce n'est pas juste pour des pasteurs et des missionnaires. L'appel de Dieu, c'est pour une variété de gens qui peuvent servir Dieu par leur travail. Souvenez-vous du film Chariots of Fire? Les chariots de feu? L'histoire, c'est quoi? Pardon? Un sportif qui est aux Olympiques, qui est un courseur. Ça se passe en 1924. Ça fait longtemps. Puis lui était censé être missionnaire en Chine. Et puis son église ne voulait pas qu'il aille courir aux Olympiques parce qu'il était prévu de partir en Chine. Il dit, je crois que Dieu m'a fait pour la Chine. Mais il m'a créé rapide aussi. Et quand je cours, je sens son plaisir sur moi. Et il a gagné des Olympiques, ce gars-là, en courant pour Dieu. Hein? Wow! La Chine, les Olympiques. N'y a-t-il un qui est mieux que l'autre? Lui, il a décidé de courir pour la gloire de Dieu. Donc, essaie plein de choses. Trouve ce qui te fait vibrer. Trouve ce qui te plaît le plus, puis deviens excellent là-dedans, pour la gloire de Dieu.